Fréquence Mistral, ma radio, mon pays.
Bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vendredi 27 novembre, jour un peu spécial, c'est le jour de la sortie d'album de Mandy Le Rouge. On l'avait déjà invité il y a un an, depuis la Cité de la Musique, puisqu'on est en direct depuis la Cité de la Musique, je précise. Et donc on est heureux de re-accueillir Mandy Le Rouge encore une fois, cette fois-ci pour parler de l'album. On en avait parlé il y a un an et ça y est, c'est aujourd'hui, Mandy. Bonjour Mandy, ça va ?
Bonsoir Dimitri, oui, tout va bien. Journée de sortie, journée importante pour nous, c'est vrai.
Pas trop de stress ?
Bah ça y est, le plus dur est fait, on va dire. Le plus long, l'attente est passée. Donc maintenant, ça y est, on peut, je crois, profiter. On a hâte de pouvoir, on avait hâte de pouvoir partager cet album avec le public. Donc maintenant, ça y est, il est né, on va dire.
Eh ben, on va en parler pendant quelques minutes tous ensemble. On va écouter aussi des extraits et tout ça avec Eva qui est avec nous. Comment ça va, Eva ?
Bonsoir, ça va super. Merci.
Mandy, aujourd'hui l'album disponible partout ?
Sur toutes les plateformes digitales et aussi, je tiens quand même à le préciser, en physique. On a tenu à faire des albums physiques, donc les magasins sont encore fermés malheureusement, mais il est disponible en vente sur le site internet mandyleroge.com et il y a aussi un vinyle collector, 100 exemplaires numérotés, dédicacés, avec un petit pack collector, on va dire. Donc on tenait vraiment à avoir cet objet aussi, on y tient.
Donc du coup, cet album, on tenait à t'inviter Mandy, puisqu'il faut le rappeler pour les auditeurs de Fréquence Mistral qui ne te connaissent pas encore, t'es du coin, donc on fait l'émission en direct de la Cité de la Musique de Marseille, puisque la Cité de la Musique t'a toujours soutenu dans cette démarche, mais tu es du coin, t'es d'où exactement ? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux auditeurs d'où tu viens ?
Alors ça fait 15 ans que j'habite à Marseille, ça va faire 15 ans déjà que j'habite à Marseille, mais je suis originaire des Hautes-Alpes, de Briançon, où il y a aussi Fréquence Mistral dans les Hautes-Alpes. Donc j'ai grandi dans les Hautes-Alpes, et après une fois le bac en poche, comme beaucoup de jeunes aux Alpins, j'ai quitté le nid des montagnes pour aller étudier ailleurs, et puis j'ai choisi Marseille, et finalement j'y suis restée, même si je rentre souvent voir nos belles montagnes.
Et donc, on en reparlera, t'es revenu un petit peu, ils ont joué un rôle, c'est Hautes-Alpes dans la création de ton album, on va y revenir dans un instant, mais d'abord explique-nous un petit peu la genèse de ton projet, la madrugada, qu'est-ce que c'est que ce mot, qu'est-ce que signifie la madrugada, et d'où est partie cette envie de te lancer dans de la musique argentine ?
Alors la madrugada, c'est le nom de l'album, c'est le nom du répertoire, c'est pas le nom d'un titre, mais c'est vraiment le nom que j'ai voulu donner à ce répertoire-là, et ça veut dire l'aurore en espagnol. Tout simplement parce que je suis partie en 2014 pour la première fois en Argentine. À la base, c'était d'une part pour danser le tango, puisque je danse le tango depuis quelques années maintenant, pour le plaisir. Mais surtout, c'était un rêve d'adolescente pour découvrir à la fois les paysages de l'Argentine, mais surtout les chevaux argentins et les gauchos, puisque je suis à cheval depuis l'enfance. Et c'était vraiment un rêve de rencontrer ce peuple cavalier-là. Et donc, j'ai vite quitté la capitale de Buenos Aires pour aller au nord-ouest, donc proche de la cordillère des Andes. Et un matin, très tôt, j'ai pris un bus. Il devait être 5 heures du matin pour aller d'une ville à une autre, Salta à Tilcara, encore plus au nord. Et là, le chauffeur de bus s'est mis à écouter ces musiques-là, les musiques du nord-ouest argentin. Donc là, c'était, je ne le savais pas encore, mais c'était de la chacarera et certainement de la samba aussi, la samba argentine avec un Z. Et j'ai entendu ces musiques-là pour la première fois dans ce contexte-là, donc un peu étonnant hein, pour une Française de se retrouver dans un bus, il est 5 heures du matin, les paysages de montagne qui défilent, les couleurs du lever de soleil, donc la réalité un peu déformée, la réalité mais qui tient un peu du rêve, et puis surtout ce chauffeur de bus qui met la musique, et puis les gens dans le bus qui se mettent à taper dans les mains, enfin je me suis dit mais c'est quoi, c'est un anniversaire et un truc comme ça, et en fait pas du tout. Ça fait partie de leur culture et c'est là que j'ai eu le premier contact avec ces musiques-là. Donc la madrugada, c'est l'aurore et c'est le moment où j'ai entendu pour la première fois ces musiques-là.
Donc tu as découvert la madrugada et tu t'es lancé dans un projet, tu t'es entouré de musiciens argentins. Parle-nous un petit peu de ton équipe qui t'a suivi, j'imagine, dans la création de ton projet, la création d'un spectacle d'abord, puis d'un album.
Sur scène, on est quatre. Donc, il y a Lalo Zanelli au piano, qui est un Argentin de Buenos Aires, mais qui est en France depuis une trentaine d'années maintenant, qui est un superbe pianiste, compositeur, arrangeur, et c'est à lui qu'on doit tous les arrangements du répertoire, de l'album. Il a une grande culture jazz, il a aussi composé des musiques de films. Du coup, j'aimais beaucoup sa vision des musiques argentines, puisque d'un côté, c'est sa culture, puisqu'il est argentin, donc il a grandi avec ces musiques-là, il les connaît très bien. Et en même temps, il a cette double culture musicale, on va dire, avec le jazz. Et j'aimais beaucoup sa manière de jouer, de composer. Donc je lui ai passé commande d'arrangement pour qu'on parte de ces musiques traditionnelles, de ces musiques populaires argentines, et qu'on les amène un peu ailleurs, avec une touche à la fois de maintenant et une touche aussi qui va avec moi, ma propre histoire, ma propre expérience n'étant pas argentine. Donc c'est le travail qu'a fait la Lozanelli, qui est avec nous aussi en tournée et qui a enregistré bien sûr sur l'album. Après, aux percussions, batterie, Javier Estrella, qui est aussi un Argentin qui habite en région parisienne et qui est en France depuis pareil une trentaine d'années, grand musicien aussi de jazz, qui a une formation classique aussi, donc il est à la fois capable de jouer dans des opéras que batterie vraiment de jazz, que des percussions très traditionnelles d'Argentine. Donc j'aime beaucoup sa polyvalence et sa finesse de par toutes ces cultures-là qu'il peut avoir de ses expériences musicales. Et puis on a un Colombien sur scène, qui est Felipe Nichols, qui est à la contrebasse et qui lui a plutôt une culture tango. Il a une grande formation de jazz aussi, il est venu en France pour étudier le jazz à Lyon, au Conservatoire de Lyon. Donc excellent contrebassiste jazz, mais avec une grande culture tango. Donc il avait ce lien aux cultures argentines, même si le tango et le folklore, c'est pas vraiment les mêmes musiques, pas vraiment les mêmes histoires, mais voilà, c'était un peu pour moi l'équipe idéale, que des gens qui avaient à la fois la sensibilité pour ces musiques-là et en même temps un grand bagage dans d'autres expériences et dans d'autres cultures musicales.
Et tout ça, on va voir ce que ça donne. Je vous propose d'écouter un premier morceau, si tu veux bien, Mandy, et puis on se retrouve juste après pour parler un peu plus de cet album, comment il a été créé, où il a été fait. Donc le morceau qu'on va écouter, c'est Chacarera de un Triste. Est-ce que je le prononce bien ?
Bravo !
C'est vrai ? Il fallait s'entraîner un peu, mais quelques mots sur ce titre, qu'est-ce que ça veut dire ?
Chacarera de un Triste, alors la Chacarera, c'est un rythme qui vient du nord-ouest de l'Argentine. Donc c'est vraiment le nom d'une musique et à la fois d'une danse, puisque ces musiques-là sont très liées à la danse, toujours liées à la danse. Et d'ailleurs, dans les consignes que j'ai pu donner à Lalo Zanelli pour faire les arrangements, je lui ai demandé de garder les structures de la danse, c'est-à-dire qu'il y a une chorégraphie sur ces danses-là. Et si jamais on jouait l'album, ou que dans une école de danse, les gens mettaient l'album et voulaient l'écouter dans leur école, ils pourraient danser la chacarera et parce qu'on a respecté la construction de la danse. Chacarera de un triste, c'est pas une chanson super joyeuse, quoique elle raconte une séparation, mais quand même le fait aussi de se relever d'une séparation, et de notamment par la musique, grâce à la guitare et grâce à la musique et à la danse.
Je vous propose qu'on écoute Chacarera de un triste, le titre de Mandy Le Rouge. Thank you.
Ya del mundo olvidé, desengaños, amargura, pero lo que vos me hiciste prenda en mi alma perdura. No hay consuelo, ya lo sé, ¿para qué quiero buscarlo? Tan deshecha tengo el alma que inútil será lograrlo. Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera. Puede ser que vos te acuerdes en el momento que muera. Seguí, guitarra, seguí, prenda lo que vos me hiciste, rasqueando toda la noche la chacarera de un triste.
Et vous êtes toujours sur Fréquence Mistral. On écoutait Mandy Le Rouge à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Aujourd'hui, son premier album même, c'est ton tout premier album, Mandy. Et puis aujourd'hui, sortie d'album et sortie de clip. Le clip donc, du morceau qu'on a écouté est sorti aujourd'hui un peu partout. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Exactement, on a sorti le premier clip de l'album, donc du premier single, Chacarera de un triste. C'est un clip qu'on a tourné très récemment en fait, en Camargue. On l'a tourné il y a quelques, je pourrais même presque dire quelques jours, parce que c'est le cas, ça a été un peu du tourné-monté. On est parti en Camargue, au Sainte-Marie-de-la-Mer, avec le réalisateur Francesco Garbo, qui est un réalisateur italien qui est basé à Marseille. Première collaboration, on n'avait jamais travaillé ensemble, mais je connaissais son travail, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, et lui aussi connaissait ce que je faisais musicalement, donc c'était l'occasion de se rencontrer. Et on a voulu garder, je ne dévoile pas ce qu'il y a dans le clip, mais on a voulu garder faire un petit clin d'œil en tout cas à la pochette. Et c'est, je suis à cheval sur la pochette, puisque comme je l'expliquais, le cheval a eu son importance dans la découverte de ce répertoire-là. On peut dire que c'est un peu grâce aux chevaux si j'ai découvert ces musiques-là. Et c'est le même cheval qui est dans le clip avec moi. Et dans ces paysages, on avait vraiment envie aussi d'être dans un paysage de nature, mais d'une nature qui ne soit pas du tout carte postale. Donc on a choisi une plage de Camargue. Il aurait pu la filmer en filmant voilà, la mer, les beaux paysages, etc. On a choisi plutôt d'en montrer un côté un peu plus sauvage, désertique non, mais en tout cas plus sauvage. Et on était soumis aussi aux conditions climatiques, c'est exactement ce qu'on voulait pour donner une ambiance un peu difficile en fait au clip. Hein. Personnellement, j'ai vraiment subi un peu les conditions climatiques du jour tous. On a eu super froid, on s'est battu comme on pouvait contre la pluie, le vent, à être obligé parfois d'arrêter de tourner. Et je trouve que c'est hyper important en fait pour donner cette dimension un peu difficile à la fois de la chanson. Enfin, ça collait bien avec ce que raconte la chanson. Et puis les conditions, on est soumis en fait aux conditions climatiques. Et c'est une bonne leçon d'humilité d'être face aux éléments comme ça. Et des fois de se dire là en fait on peut plus tourner pendant une heure et c'est comme ça quoi.
Il s'appelle comment le cheval?
Aramis de Sauvagine, c'est un cheval Camargue.
C'est un cheval camargué. Alors un clip tourné en Camargue avec un Italien, donc sur de la musique argentine. Et l'album, il a été enregistré où ?
Il a été enregistré dans la région aussi. Hein. C'est une production assez circuit court, assez produit bio et local. On est allé l'enregistrer à Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse, au studio La Buissonne, qui est un studio assez mythique, qui a une trentaine d'années d'existence, mythique studio de jazz, où notamment le label ECM enregistre pas mal de ces artistes là-bas. Et pour moi, c'était vraiment un lieu mythique dont j'entendais parler depuis des années, dont je rêvais et je pensais jamais pouvoir enregistrer là-bas, ça me semblait aussi mythique qu'inaccessible. Et un peu grâce aux belles surprises de la vie, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'ingénieur du son, Gérard de Haro, de cet endroit-là, et qui est quelqu'un de très généreux, très simple et très bienveillant. Et puis, grâce à lui et les gérants, et la gérante aussi du studio, Sylvie de Haro, on a pu faire l'album là-bas. Et ça a été vraiment une sacrée expérience de pouvoir enregistrer là-bas.
Comment c'est fait le travail sur l'album ? Comment est-ce qu'on construit un album, son premier album ? Il me semble d'ailleurs que tu as fait du financement participatif pour arriver à créer cet album, à financer la création de cet album. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a marché aussi, ce financement participatif ?
Alors oui, le financement participatif a très bien marché. Ça a été une belle surprise. Disons qu'on ne l'a pas financé que comme ça. On a quand même aussi été vraiment soutenu par d'autres moyens, des financements publics aussi. On a été bien soutenu, et notamment aussi par la Cité de la Musique, qui nous a accueillis en résidence juste avant qu'on enregistre l'album, et qui était du coup, de fait, dans des apports en production pour cet album. Mais oui, j'avais envie de faire appel à la foule, comme on dit, pour cet album. Et on a eu la surprise, oui, d'exploser notre objectif financier. Donc ça a été... les gens ont vraiment, je pense, compris que face à cette crise sanitaire qu'on est tous en train de vivre, les artistes aussi étaient touchés. Alors évidemment, il y a le milieu médical et c'est très compliqué de faire une campagne de dons. Elle était prévue plutôt en mars-avril au départ pour faire le financement participatif avant d'enregistrer l'album. Et parce que clairement, bah, on avait besoin d'argent aussi à ce moment-là, hein, pour payer les musiciens, louer le studio, etc. Et je ne me sentais pas, moi, de lancer une campagne de financement participatif en plein premier confinement, alors qu'il y avait des urgences vraiment sanitaires, quoi. Je ne me voyais pas du tout demander de l'argent à des gens, en fait. Donc on a tout repoussé, on a repoussé ça à cet été. Et le financement participatif a commencé oui, fin août, début septembre. Et c'est terminé en début de semaine, donc le 23 novembre. Et quand on a décidé de maintenir la date de sortie de l'album, malgré le confinement, malgré le fait que les magasins soient fermés, etc., bon, bah, j'ai lancé un peu un appel complémentaire, disons, à ma communauté sur les réseaux sociaux, etc., en disant, bon, bah, voilà, on maintient le disque, par contre, il va falloir qu'on tourne un clip. Et là, on a vraiment besoin de vous précommander l'album, précommander le vinyle... Et ça a vraiment marché, quoi. C'était une belle surprise. Donc merci à tous les contributeurs, les 104 contributeurs qui ont permis à cet album de voir le jour.
Et t'as pas eu peur quand tu t'as décidé de lancer l'album malgré la situation, malgré tout ça? T'as quand même maintenu la date d'aujourd'hui, du 27 novembre. Est-ce que t'avais peur? Est-ce que t'as redouté un petit peu que les conditions sanitaires viennent un peu changer tes plans ou... poser des problèmes?
Oui, j'ai redouté, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai passé une nuit blanche, j'avoue. Quand la question s'est posée, est-ce qu'on maintient, quand les partenaires ont commencé à me dire, est-ce que tu maintiens, est-ce que tu repousses, ce serait bien de repousser. J'ai passé une nuit presque blanche parce que si près du but, on se dit tout était très bien parti, l'enregistrement s'est vraiment bien passé, on est ravis du résultat, les partenaires sont contents aussi. On a trouvé les financements pour. Et là, si près du but, au moment de la sortie, on se dit, OK, c'est un peu comme rater le dernier virage, en fait, dans une course où on se dit, est-ce que c'est le moment de se planter, quoi. Donc, peser le pour et le contre de on maintient, on repousse, qu'est-ce que ça implique et puis penser à toute l'équipe qui est derrière, quoi. Vraiment, de se dire, est-ce qu'on ne met pas tout le monde en difficulté si on maintient ou est-ce qu'à l'inverse, on ne met pas tout le monde en difficulté si on repousse? La tendance était plutôt à repousser, comme beaucoup d'artistes, hein, ont repoussé à 2021 leur sortie d'album. Et non, j'ai décidé de maintenir. Alors c'était à la base un peu égoïste et parce que j'avais vraiment envie qu'ils sortent. Et c'est tellement de boulot en fait. Et puis c'est une petite production. Je suis techniquement, sur les questions de production, etc., je suis assez seule. Il n'y a pas de structure derrière vraiment qui porte ça. C'est une autoproduction. Enfin, il n'y a pas de label derrière. C'est produit par la compagnie Le Fil Rouge, dont j'ai la direction artistique, mais derrière, il n'y a pas une maison de disques, quoi. Et c'est tellement de boulot, tellement d'énergie que j'arrivais personnellement au moment où je me suis dit « Ok, il faut qu'il sorte en fait cet album ». Et puis l'équipe artistique était ok aussi. Ils m'ont dit « Oui, les musiciens, ils m'ont dit « Bah oui, il faut qu'il sorte, on est derrière toi, on va partager le lien de pré-vente à fond ». Et les autres partenaires aussi ont dit « Bah ok, on te suit ». Donc on a dit « Bon, on y va ». On y va. Et puis, je pense aussi que les gens, pendant ce confinement, malgré tout, ils ont besoin aussi... je ne dis pas qu'ils ont besoin de moi, ce n'est pas du tout le truc. Mais par contre, moi, étant confinée, je sais que j'ai besoin de nouveautés, d'écouter de la musique, de voir des films, de voir des choses depuis chez moi. Et voilà, je me suis dit aussi peut-être que c'est le moment de partager cette musique-là et de les faire voyager un peu vers l'Argentine depuis leur salon.
C'est aussi une façon de soutenir les artistes autrement en achetant cet album. Puis si on le commande là dans les jours qui viennent, puisqu'on peut le commander sur Internet, à défaut d'aller dans les magasins, on le reçoit avant Noël?
Complètement.
Et ben voilà,
je m'en occupe personnellement parce que j'ai transformé mon appartement en bureau de poste et tout est prêt. Les enveloppes sont prêtes, les timbres sont prêts, les disques sont prêts. Et je m'occupe de toutes les expéditions du CD. Le vinyle, on est soumis justement aux contraintes sanitaires. C'est-à-dire que j'ai souhaité que tout soit fabriqué en France. Donc j'ai choisi des usines qui sont en France. Le CD a été fabriqué en France. Les vinyles aussi. Sauf qu'eux ont vraiment souffert de la crise, l'usine de fabrication des vinyles qui est dans le nord de la France. Et ils ont dû fermer pendant quelques semaines, en fait, à cause des conditions sanitaires, du contexte. Donc, il y a pas mal de retard de production. Donc, les vinyles, on ne les aura pas pour Noël, malheureusement. On les aura en janvier. mais on a décidé de continuer quand même à maintenir notre commande et continuer à travailler avec cette usine française pour les soutenir.
Donc un beau cadeau de Noël, une façon de soutenir les artistes, c'est du circuit court, on l'a dit, c'est du Made in France, donc ça vaut le coup. Vous pouvez retrouver l'album à commander sur le site de Mandy le Rouge et un peu partout, ça sert à rien de vous rappeler, vous savez un peu où le trouver. On va parler de notre morceau, alors celui-là on va pas l'écouter, vous l'écouterez, il faudra acheter l'album pour l'écouter. Parce que tu as fait une rencontre, un duo avec un artiste. Alors, même si vous ne le connaissez pas, le nom vous dira forcément quelque chose. Si tu peux nous dire qui c'est, Mandy.
Melingo. Melingo, c'est un chanteur argentin, chanteur et multi-instrumentiste. Il a eu mille vies, ce Melingo. Daniel Melingo habite à Buenos Aires. Il a commencé en étant plutôt musicien dans des groupes punk et rock argentin. Ensuite, il est venu en Espagne, il a continué à faire du rock. Et puis, il est retourné en Argentine, il s'est mis au tango. Il a une voix, mais vraiment à la Tom Waits. Souvent, on dit que c'est le Tom Waits du tango. Puis, il a un personnage de vagabond qu'il a construit, qui est vraiment très intéressant, qui décline dans tout l'univers aussi visuel de ses projets. Et récemment, il a sorti un album qui est plus toujours influencé par le tango, mais il est allé creuser, puisqu'il a des origines grecques, donc il est allé creuser du côté du rebetiko, mais électro. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est très ouvert, qui ne se bloque pas dans sa vie sur un seul genre. Il a été chanteur il a chanté sur des albums aussi de Gotan Project. Et Melingo, on s'est rencontrés grâce aux réseaux sociaux, parce que c'est quelqu'un dont j'appréciais le travail depuis des années. Et un jour, il y a 2-3 ans, chez moi, j'ai fait une vidéo où je chantais une de ses chansons, en fait. Mais vraiment à l'arrache, quoi. Face à mon écran, je l'ai filmé, je l'ai posté et je l'ai juste tagué parce que par respect pour son travail, en mettant une chanson de Melingo. Et en fait, il m'a écrit un petit message derrière. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Donc il y a quelques années, on est resté ensuite en contact. On s'est rencontrés dans la vraie vie pendant qu'il était en tournée en France. Et puis quand s'est posé la question de l'album, déjà avant de faire l'album, on a tourné pendant un an ce répertoire-là sur scène et presque systématiquement, quand il y avait des rappels, on chantait cette chanson La Noche de Melingo en duo piano-voix avec Lalo Zanelli. Et plus je la chantais, plus j'aimais la chanter. Et un jour, quand on s'est dit on fait l'album, on s'est dit on va l'enregistrer. Et plutôt que de juste contacter Melingo pour lui demander les autorisations, je lui ai demandé s'il était OK pour la chanter aussi sur l'album. Et il a accepté. Donc il est sur l'album en duo avec nous. C'est un trio, du coup, on l'a fait vraiment de manière très épurée, piano, voix, et puis lui en invité qui chante ce titre avec nous.
Donc La Noche de Mandy le Rouge et Melingo à retrouver sur ton album. On va pas l'écouter, je me dis, ça fait un petit teasing, les gens ils pourront le découvrir d'eux-mêmes en prenant l'album, mais vous, voilà, piste numéro 8. Hein. Et donc je vous propose qu'on écoute un autre morceau, ça s'appelle Un Escándalo Cualquiera. Est-ce que je suis toujours bon ?
C'est exactement ça, bravo.
On découvre le morceau et on en parle juste après sur Fréquence Mistral.
En el bar se peina lentamente lloran al pasar, cachas que sentas. Invitas el cafecito, gente arrima, sana más linda con pinta de ganador. Gambeteando con la labia, la llevas al ñoba y le pegas un besuco. Esperar, la amiga se impacienta, se fuma un pecho más y se las va a tomar. Mientras tanto el samandija meta duro con la mina, el quilombo es infernal. El trompa se vuelve loco y el flaco le rompe un ojo. Piensa, me sale mal.
C'était Un Escándalo Cualquiera de Mandy Le Rouge sur Fréquence Mistral. Mandy, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce titre, notamment sur la participation de Vincent Segal ?
Oui, alors Un Escándalo Cualquiera, c'est un peu un des morceaux, on va dire, particuliers de l'album, puisque c'est une composition de Lalo Zanelli, le pianiste et arrangeur du projet. Et il l'a écrite cette chanson et il a écrit les textes donc et la musique, mais pas du tout pour cet album là. C'était un titre qu'on retrouve sur un de ses albums et j'ai un peu découvert le travail de Lalo avec ce titre là. Je l'ai d'ailleurs chanté pour la première fois avec Lalo Zanelli sur le plateau de la Cité de la Musique il y a quelques années dans le cadre du festival Jazz sur la Ville. C'était la première fois qu'on a collaboré et j'aime beaucoup cette chanson qui est écrite en lunfardo, c'est un peu l'espagnol argentin de Buenos Aires, c'est l'argot de Buenos Aires. Donc j'aimais bien ce côté un peu différent du reste du répertoire, un peu rappeux, un peu tango, avec une énergie assez rock. Donc j'avais très envie de la mettre aussi dans l'album. Et Vincent Segal, grand violoncelliste et compositeur, réalisateur, est invité sur ce titre. Et au-delà de ça, il a réalisé tout l'album.
C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il a une implication différente du coup sur cet album de La Madrugada ? Est-ce qu'il a apporté un peu sa patte artistique sur cet album ?
Complètement. On doit le son, je pense, de La Madrugada de l'album à Vincent Segal et à l'ingénieur du son Gérard de Haro, donc du studio La Buissonne, puisque quand j'ai contacté Vincent pour lui proposer de réaliser l'album, lui, son idée, sa réponse a été, il a écouté un peu ce qui était disponible, donc des enregistrements de concerts, l'EP aussi qu'on avait sorti l'année dernière, et il m'a dit, Mandy, pour moi, ton premier album avec ce répertoire-là, il faut l'enregistrer comme un vieux disque de jazz. Et je lui dis, c'est-à-dire, qu'est-ce que... Il me dit, pour moi, il faut que vous enregistriez tous dans la même pièce et sans casque. Alors, il y a eu un peu de travail à faire sur les musiciens et sur moi-même, hein, parce qu'enregistrer tous dans la même pièce, bon, c'est une chose, mais c'est toujours un peu risqué. C'est pas dans les pratiques les plus courantes. Hein, maintenant, on est plutôt chacun dans une cabine, séparés, on fait des sons super propres, etc. Mais alors, sans casque, c'est une expérience assez étonnante. Et en fait, ça a tout changé. Ça a tout changé sur notre manière de jouer, de nous écouter. On a pris vraiment le temps, on a pris une demi-journée pour se placer nous-mêmes les uns par rapport aux autres dans le studio pour, et placer les micros pour que le son soit le plus beau possible, le plus naturel possible. Et c'était ça son envie, en fait, à Vincent Segal. C'était d'avoir une captation la plus naturelle possible, la plus proche du son des instruments, du son de nos interprétations. Il voulait presque qu'on entende les marteaux du piano taper sur les cordes du piano ou les doigts du pianiste sur les touches du piano. Et il voulait qu'on ait l'impression, en fait, presque quand les gens écoutent le CD, qu'ils aient l'impression qu'on est dans leur salon, en fait. C'était vraiment l'idée. C'était d'être sur quelque chose, presque de l'approche musique de chambre, quoi, d'être dans un équilibre sonore naturel. Et effectivement, au mixage, ça a été assez incroyable. Il n'y a eu presque rien à faire parce que tout s'est fait naturellement au moment des prises de son. On a travaillé vraiment sur les prises de son et il n'y a pas de re-re, on n'a pas réenregistré derrière des choses. C'était... l'instant, le direct, et puis l'écoute vraiment, et la réaction les uns par rapport aux autres, et donc un son vraiment très naturel.
Alors pour terminer, je vous propose de parler d'un dernier titre de l'album, un peu spécial, il porte le nom de l'album, La Madrugada, c'est ça. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ?
Je laisse écouter un petit peu. Alors ce titre-là, déjà quand même, je précise qu'il n'est... disponible que sur la version physique du disque. Il n'existe pas en digital. J'avais vraiment envie de le réserver aux personnes qui auront l'objet parce que c'est très lié à du concret pour moi. C'est-à-dire que c'est un lever de soleil en Argentine. C'est La Madrugada, c'est une aurore. C'est une aurore que j'ai enregistrée puisque pendant mon dernier voyage, je suis partie avec un enregistreur et j'ai fait beaucoup de prises de son du nord-est au nord-ouest de l'Argentine pendant 5 semaines. Et notamment des levées de soleil. Je savais déjà que l'album allait s'appeler La Madrugada, donc l'aurore. Et j'ai enregistré des aurores dans différents endroits de l'Argentine. Et ça, c'est dans un endroit vraiment qui me tient à cœur. C'est Esquina, la ville d'Esquina, dans la province de Corrientes, donc au nord-est de l'Argentine, qui est le berceau du chamamé et le berceau de la culture des gauchos. Et c'est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps avec les gauchos à cheval, à travailler avec eux, à aller trier le bétail, à aller chercher les vaches, etc. Et ce lever de soleil était juste incroyable avec ces sons d'oiseaux de nature qui se réveillent. Donc il n'y a pas de montage, hein, c'est le lever du soleil tel qu'il était, les oiseaux tels qu'ils chantaient ce matin-là de janvier 2020.
Eh bien merci, Mandy Le Rouge. Donc on le rappelle, ton album sort aujourd'hui, disponible en numérique partout, également en version physique. Vous pouvez le recevoir avant Noël, donc n'hésitez pas à le commander. On peut te retrouver également sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux, toujours @MandyLeRouge. Et pour commander le disque, oui, ça se passe sur www.mandyLeRouge.com.
Merci à la Cité de la Musique de Marseille qui nous a accueillis pour enregistrer cette émission. Et merci à toi, Eva.
Merci à vous.
Bonne soirée à tous et à plus tard sur Fréquence Mistral.
Fréquence Mistral, ma radio, mon pays.